Grand Angle sur Radio Orient.
Bienvenue sur Grand Angle. Plus de 210 journalistes palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre à Gaza sous les frappes israéliennes. Reporters sans frontières, avec plus de 250 médias internationaux, mènent une opération de mobilisation pour dénoncer ces attaques et réclamer la protection des reporters. À travers ce mouvement, RSF accuse l'armée israélienne de cibler délibérément les journalistes pour empêcher la couverture indépendante du conflit. Pour en parler, nous recevons Jonathan Dagher, responsable du desk Moyen-Orient de RSF. Merci d'être avec nous.
Merci à vous, bonjour.
Pourquoi avoir lancé cette opération mondiale aujourd'hui et quel message espérez-vous faire passer à l'opinion publique?
Vous savez, comme vous l'avez dit, depuis presque deux mois, on témoigne d'un massacre vraiment sans précédent contre la presse. Plus de 220 journalistes ont été tués par l'armée israélienne à Gaza. C'est un bilan inédit, vraiment. Dans le 21e siècle, on n'a jamais vu un massacre contre les journalistes de cette ampleur en si peu de temps, même si ces deux ans sont très longs, mais ça reste peu de temps, dans un territoire aussi petit que la bande de Gaza. On parle de journalistes tués, de journalistes ciblés, de rédactions ciblées, de déplacements forcés. On parle d'un blocus médiatique, des journalistes empêchés de sortir, des journalistes internationaux empêchés de rentrer. Une diffamation qui vise à décrédibiliser les journalistes, de les accuser de terrorisme. Et donc, voilà cette action du 1er septembre, lancée par Reporters sans frontières, et l'organisation a été faite auprès de, je dirais, plus de 270 médias, c'était le dernier chiffre hier, près de 270 médias qui ont participé à cette opération, vraiment en mettant sur la une des déclarations pour dénoncer ce crime. Nos demandes sont simples, elles sont très directes. On demande la protection des journalistes dans la bande de Gaza, la protection des journalistes palestiniens et une fin à l'impunité qui permet à ce crime de continuer. Oui. On demande aussi la levée du blocus médiatique sur la bande de Gaza, c'est-à-dire que les journalistes qui ont besoin de sortir puissent sortir et que la presse internationale puisse rentrer et travailler auprès de ses confrères dans la bande de Gaza. Oui. Et on demande aux pays hôtes d'accueillir les journalistes palestiniens qui ont besoin de sortir.
Reporters sans frontières parle d'une stratégie délibérée de l'armée israélienne contre les journalistes palestiniens. Pour vous, ils sont sciemment visés.
Vous savez, si on veut parler, par exemple, d'erreurs ou de dommages collatéraux, par exemple, des premiers jours, peut-être ce serait un argument, mais même les premiers jours, hein, dès le premier jour, on a eu des frappes ciblées contre des journalistes clairement identifiables. Mais là, je donne un argument pour dire que peut-être les premiers jours, ok, mais là, on est à deux ans. Au bout de deux ans, on voit de plus en plus des frappes ciblées contre des journalistes. On sait que les capacités de l'armée israélienne de surveillance sont énormes, que ce soit les drones, que ce soit l'IA. Voilà, il y a trop d'enquêtes qui sont sorties sur ce sujet. On sait que toutes les rédactions sont ciblées et que les journalistes travaillent des tentes ou de là où ils se trouvent ou vraiment parfois de leur voiture. J'essaie de dire qu'ils se débrouillent et qu'ils sont sous la surveillance constante. Donc, c'est très difficile de dire qu'il y a eu des accidents ou que l'armée israélienne ne sait pas où elle frappe. Mais moi, je veux pas rester dans l'hypothèse, je veux aller dans le concret. Par exemple, la semaine dernière, le lundi 25 août, il y a eu pas une seule frappe, mais deux frappes sur l'hôpital Nasser, qui est connu pour abriter des journalistes. Il y avait cinq journalistes qui ont été tués dans cette frappe.
D'un seul coup, oui.
Voilà. Et le premier journaliste qui a été tué, c'était Hassan Al-Masri, qui est en live stream sur l'escalier externe de l'hôpital. C'est un journaliste de Reuters qui était en train de travailler, là où il travaille toujours. Et il y a eu une frappe qui l'a tué sur le coup. Et donc, les secouristes et un groupe de journalistes se sont précipités au lieu, en fait, pour couvrir cette frappe. Et plus de 12 minutes plus tard, ou même 15 minutes plus tard, il y a eu une deuxième frappe sur le même lieu qui a tué une vingtaine de personnes, dont quatre autres journalistes. Et donc, voilà, déjà, il y a deux frappes. Et quand on parle d'un écart de 12, 13, 14, 15 minutes entre les deux frappes et deux journalistes identifiables, là, ça nous montre une intention. C'est-à-dire deux frappes sur le même lieu à 15 minutes d'écart, c'est pas un accident. C'est une décision qui a été prise. Et on sait que les journalistes étaient identifiables. Et ça nous rappelle un peu les deux frappes qui ont ciblé et tué le journaliste Hissam Abdallah de Reuters aussi au sud du Liban. Pas à Gaza, ça c'est au Liban, mais c'était le 13 août, et qui a ciblé ses collègues de l'AFP et d'Al Jazeera. Et là aussi, on a enquêté, on a trouvé qu'il y a eu deux frappes israéliennes consécutives qui ont ciblé le groupe de journalistes identifiables sans aucune provocation et qui ont mené à la mort du journaliste Hakan Abdallah.
Jonathan Daguerre, plus de 210 journalistes tués en moins de 2 ans, vous l'avez dit. Comment expliquer que la communauté internationale reste si silencieuse face à ce bilan dramatique?
C'est ça l'impunité, en fait. C'est les pressions politiques, c'est l'intimidation, c'est les intérêts politiques, c'est pas juste les pressions politiques, c'est aussi les intérêts politiques, c'est les biais. Vous savez, c'est la première fois à RSF quand un journaliste est tué. Normalement, on reçoit, c'est-à-dire l'indignation est partagée, mais c'est la première fois qu'on reçoit des questions du genre « Mais comment vous savez que c'est un journaliste? Comment vous savez que c'est pas un terroriste ?» Et en fait, ça montre à quel point la propagande israélienne qui vise à vraiment décrédibiliser les journalistes, combien elle fonctionne parfois, malheureusement. Mais je pense que cette opération et le fait qu'il y a 270 médias qui nous rejoignent pour dénoncer ces crimes, ça montre vraiment une solidarité envers ces journalistes. Ça montre que cette propagande, en fait, ne fonctionne pas aussi bien qu'ils l'aimeraient. Et que non, les journalistes du monde entier, je ne veux pas dire du monde entier, peut-être que c'est une exagération, mais j'espère qu'on y arrivera à pouvoir dire ça, dénoncent les crimes contre leurs confrères et dénoncent cette propagande qui vise vraiment à les diffamer. Parce qu'il n'y a pas d'autres mots.
Alors, vous avez déposé plusieurs plaintes devant la Cour pénale internationale. Quelle suite concrète attendez-vous de la justice internationale?
Que les auteurs de ces crimes soient tenus pour compte, qu'on voit des mandats d'arrêt contre tous ceux qui ont participé aux crimes contre les journalistes. 4 plaintes déposées et on a eu une réponse en janvier 2024 par le bureau du procureur qui nous dit que grâce à ces plaintes, en fait, la situation des journalistes va être prise en compte dans les enquêtes de la Cour. Du procureur, pardon. Et on espère que ça va avancer. On a déjà vu des mandats d'arrêt, évidemment, contre les dirigeants du Hamas et contre les dirigeants israéliens. Mais ces mandats d'arrêt n'ont pas été à cause de crimes commis contre les journalistes. Là, on espère vraiment que les crimes commis contre les journalistes soient mis en avant et qu'ils soient punis. Parce que tant qu'ils restent impunis, tant que l'armée israélienne peut continuer de commettre ces crimes sans, y a pas de prix, en fait. Et eux, ils veulent imposer un blackout médiatique selon notre analyse. Ils veulent pas que les gens, que le public dans le monde puisse voir ce qui se passe dans la bande de Gaza. Et quand on parle d'accusations de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, hier même, il y a eu de nouvelles conclusions sur ces sujets-là. Et voilà, quand on voit ces accusations, on comprend mieux pourquoi, en fait, les journalistes sont si dangereux pour l'armée israélienne. C'est pour ça qu'ils cherchent à imposer ce blackout médiatique.
La presse internationale est quasiment absente de Gaza, hormis quelques médias embarqués par l'armée israélienne. Que signifie pour la vérité des faits cette absence d'accès indépendant?
L'accès indépendant est très important. Il y a les journalistes, évidemment, de Gaza qui sont en train de travailler, mais les journalistes de Gaza, ils font face à un blocus depuis 2 ans. Ils font face à la famine, à la faim, à la soif, à l'épuisement. Ils sont ciblés, ils sont tués, ils sont dans la peur. Ils ont plus trop de moyens, il n'y a pas d'électricité, bref, c'est très très difficile. Et donc, ils ont besoin du soutien de leurs collègues, de leurs confrères, de la presse internationale, mais sauf qu'il y a ce blocus imposé. Les quelques journalistes qui ont pu rentrer de l'extérieur dans la bande de Gaza ont été encadrés par l'armée israélienne et donc soumis à beaucoup de restrictions, à des censures. Et ça, ce n'est pas du tout suffisant. Et il y a une question qui se pose. Si le gouvernement israélien veut prétendre que tous les journalistes de Gaza sont malhonnêtes, parce que c'est un peu ce qu'il laisse entendre, qu'ils sont malhonnêtes, en fait, qu'ils manipulent, qu'ils mentent, qu'ils sont des combattants du Hamas, ou voilà, c'est des accusations qu'on revoit tout le temps. Alors pourquoi ne pas permettre à la presse internationale de rentrer? C'est une évidence, non? Mais on se pose la question. Bien sûr, on connaît la réponse. Voilà.
Au-delà des dénonciations, quelles mesures urgentes RSF demande-t-elle aujourd'hui pour protéger les journalistes encore en vie à Gaza?
Aujourd'hui, rien ne protège les journalistes de Gaza, sauf la pression politique, sauf vraiment la justice pour les journalistes qui sont déjà tués. Il faut y avoir un coût, je répète, un prix pour tuer les journalistes. C'est-à-dire, tant que ces crimes restent impunis, tant qu'il n'y a aucune forme de pushback, de justice qui va pouvoir arrêter l'armée. Donc la justice, c'est très importante. On demande des décisions politiques, c'est-à-dire des pressions politiques, diplomatiques. On utilise tous les leviers. Vous savez, on a déposé 4 plaintes auprès de la Cour pénale internationale, mais on fait aussi la pression sur des gouvernements, pression économique, pression politique. Pardon, pour clarifier, on leur demande d'exercer des pressions économiques et politiques. On demande au Conseil sécuritaire de l'ONU de se réunir en urgence pour parler de l'application de la résolution 2222 c'est une décision du Conseil sécuritaire qui exige la protection des journalistes dans des zones de conflit. Évidemment, que, comme tout le droit international, cette décision est méprisée aujourd'hui à Gaza. On demande que le public ne cesse pas de parler, d'amplifier ces journalistes-là, et nous, on va continuer en fait de transmettre l'info, d'être leur voix. Je pense aussi qu'on a un rôle, nous, en tant qu'organisation, de pousser les médias à en parler, que ça reste vraiment sur la une des médias, tout comme le 1er septembre, ça doit vraiment rester sur la une. C'est un crime qui est inacceptable et qui doit s'arrêter à tout.
Merci, Jonathan Daguerre.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes responsable du desk Moyen-Orient de Reporters sans frontières. Merci à vous qui nous suivez sur Radio-Orient. Vous pouvez réécouter l'intégralité de ce grand angle sur le www.radioorient.com. Excellente suite de programme.
C'était Grand Angle sur Radio-Orient.